La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Anthropocène, le mot fait son chemin des cercles scientifiques vers le grand public, qui commence à comprendre ce que vise à saisir ce concept forgé au début des années 80 et popularisé au tournant du siècle. L'idée somme toute assez simple, que la planète Terre serait entrée dans une nouvelle ère, une nouvelle époque géologique définie par l'action de l'homme. Ce qui est assurément moins partagé pour le grand public, ce sont les débats parfois vifs, souvent passionnants, que ce concept, partagé par les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales, a fait naître au sein du monde académique. Un livre collectif issu d'un vaste colloque, Penser l'Anthropocène, nous permet de mieux comprendre ces débats. Un livre sous la direction de Rémi Beau et Catherine Larrère, ils sont tous les deux aujourd'hui mes invités à la suite dans les idées. Une suite dans les idées consacrées donc au concept d'anthropocène qu'on interrogera aussi du côté de l'art contemporain à la faveur d'une exposition qui se tient jusqu'au 6 mai au Centre d'art de Montpellier, La Panacée. Une exposition que l'on doit au directeur de ce lieu, Nicolas Bourriaud, qui est le commissaire de Crash Test, la révolution moléculaire qui donne à voir un certain nombre d'œuvres d'artistes intéressé par cette question de l'anthropocène. Mais on commence avec les sciences humaines et sociales et leur relation aux autres sciences, en particulier pour penser cette question de l'anthropocène. Penser l'anthropocène, c'est le titre tout simplement de ce livre qui paraît aux presses de Sciences Po. Bonjour Catherine Larrère.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 1. Bonjour Rémi Beau, philosophe également, docteur en philosophie. Vous enseignez également à Paris 1.
Oui, bonjour.
Alors, ce livre, je le disais, est issu d'un grand colloque qui s'est tenu avant la fameuse COP21 parisienne qui avait mobilisé beaucoup à la fois au plan politique mais au plan intellectuel, et je pense qu'il a marqué un moment dans la compréhension du grand public pour cette notion d'anthropocène. Avant d'en arriver là, avant d'en arriver à 2015, peut-être Catherine Lerrer, pourrait-on commencer par le commencement, c'est-à-dire la manière dont est né ce mot et la manière dont il s'est diffusé. Un mot un peu compliqué, en tous les cas de prime abord, même s'il entre vraiment dans le vocabulaire des médias de plus en plus.
Alors, comme vous l'avez dit, il semble qu'il apparaisse dans les années 80. Disons qu'il est officialisé par une série d'articles qui sont publiés dans des revues comme Nature, donc des prestigieuses revues scientifiques.
Donc dans un contexte de sciences dures.
Dans un contexte de sciences dures, dans un contexte de sciences de la Terre. Et c'est lancé en particulier par un prix Nobel de chimie qui est Paul Crutzen. Et en fait, le terme d'anthropocène, donc il est forgé à partir du grec, hein, anthropocène. Ça veut dire homme et scène, c'est le suffixe qui accompagne la dénomination d'une époque géologique. Au Quaternaire, on a le Pléistocène, l'Holocène et l'Anthropocène. En fait, Holocène, ça veut dire tout nouveau, hein, la dernière époque toute nouvelle, donc Anthropocène, ça en rajoute une. C'est très lié à la prise de conscience de l'importance du poids humain sur la Terre, et en particulier du changement climatique, même si c'est pas uniquement le changement climatique. L'idée, non seulement que les traces de l'humanité sont repérables sur la Terre, ça, depuis qu'il y a des humains, on peut les trouver.
Il y a des traces, sans doute.
Il y a des traces, on peut trouver des traces de l'invention du feu à la préhistoire. Mais l'idée que c'est plus que des traces, c'est que l'humanité est devenue une force géologique et qu'elle est capable de modifier le système Terre. Alors ça, on le sait pour le changement climatique, mais il y a d'autres éléments, l'érosion de la biodiversité, puis des choses plus techniques comme le cycle du carbone. Donc l'humanité a un impact décisif sur l'ensemble du système Terre.
Ça, c'est la première étape, la manière dont ce mot, ce concept est apparu. Il y aurait peut-être une deuxième étape, c'est le moment, Rémi Beau, où ce concept dépasse les frontières des sciences dures, des géologues qui s'intéressent à ces grandes périodes, pour gagner les rivages des sciences humaines et sociales, et où des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des historiens s'intéressent à cette question de l'anthropocène.
Oui, tout à fait. C'est donc un terme, vous l'avez rappelé, qui a été proposé par des scientifiques venant des sciences dites dures. Mais le terme n'a pas manqué d'attirer l'attention très rapidement de chercheurs en sciences humaines et sociales, notamment à la suite de la parution d'un article de l'historien indien Dipesh Chakrabarty, qui a publié un article pour...
Indien, mais professeur à l'Université de Chicago.
Certes. Mais l'objet de cet article était de dire que l'Anthropocène marquait aussi le fait que nous ne pouvions plus penser l'histoire des sociétés humaines en restant dans le monde des hommes, mais qu'il fallait associer cette histoire à l'histoire naturelle de la planète. Autrement dit, que nous ne pouvions plus nous contenter d'aborder l'histoire du développement des sociétés humaines, du développement des sociétés industrielles et du capitalisme, sans rapporter cette histoire à la manière dont les sociétés interagissent avec la nature, interagissent, disons, avec l'histoire, rapporter cette histoire à l'histoire matérielle de la planète.
Alors cet article d'Dinesh Chakrabarty va avoir une répercussion assez considérable. C'est un petit peu l'allumette qui est à l'origine de débats. Très rapidement, il fait controverse. Pourquoi ?
Parce que Chakrabarty dit il faut laisser tomber le partage habituel entre, d'une part, l'histoire de la nature, de la Terre, et d'autre part, l'histoire humaine, qui fait que les histoires humaines, au plus, il y a une petite préface sur le cadre naturel, et puis on le laisse de côté. Ça avait été déjà dit. Ça avait été déjà dit par Latour, par Michel Serres, etc. Mais ce qu'il ajoute, et c'est ça qui va faire la controverse, c'est il faut que l'humanité se considère comme une espèce, c'est-à-dire se prenne en charge comme espèce biologique. Et donc, ce qui peut être étonnant, Chakrabarty, c'est un historien du postcolonialisme, très proche du marxisme, disons, et de dire, ben, finalement, l'histoire de l'Anthropocène, c'est pas uniquement l'histoire du capitalisme. C'est une histoire de l'humanité. Et c'est ça qui va déclencher la polémique, avec, en France, des gens comme Christophe Bonneuil et Fressoz qui vont dire « Mais non, on ne peut pas rendre l'humanité comme espèce, comme si c'était une espèce biologique, responsable de ce qui est en train de se passer. Ça relève toujours de l'histoire du capitalisme. » Donc, ça va faire le gros débat en sciences humaines.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand H d'humanité ? Est-ce qu'on peut le voir comme ça, comme un ensemble, ou est-ce que c'est impossible, ce ne serait pas se donner les moyens de comprendre véritablement que ne pas saisir les inégalités profondes qui traversent cette humanité, tant dans une perspective historique que dans une perspective géographique ou économique, Rémy Beau?
C'est tout le problème. Alors, vous dites le grand H d'humanité ou le grand A d'anthropos, c'est tout le problème, au fond, et l'une des principales critiques adressé à ce terme d'anthropocène, c'est de gommer les inégalités très grandes, aussi bien du point de vue de la responsabilité historique des différents pays dans le réchauffement climatique et plus largement dans l'ensemble des processus qui renvoient à l'anthropocène. Et puis, c'est aussi gommer le fait que les victimes de cet anthropocène sont majoritairement les acteurs qui ont le moins contribué à cet anthropocène et au réchauffement climatique.
Donc c'est les réfugiés climatiques, par exemple, viennent de pays qui n'ont pas massivement contribué à l'émission de ce qui a provoqué ce réchauffement climatique, par exemple.
Exactement, et c'est donc gommer deux types d'inégalités qui caractérisent l'anthropocène et le réchauffement climatique. Et donc la question est, quel est cet anthropos que l'on désigne par le terme d'anthropocène, et c'est une partie de l'enjeu du débat entre anthropocène, capitalocène, le capitalocène insistant sur ces inégalités, tandis que l'anthropos tendrait à les effacer.
Catherine Larrière, ces débats vont se développer, vous citiez tout à l'heure des historiens, dans différentes disciplines, vous-même vous êtes philosophe, tous les deux, comment se diffusent au fond ces controverses ?
Je crois que c'est vraiment sciences humaines, c'est pas forcément les historiens, les philosophes, les sociologues, c'est les historiens vous diront, nous on tient plus compte du passé, et les philosophes ont l'habitude de raisonner dans la généralité de l'humanité, mais bon, il suffirait de citer, Derrida et autres pour montrer que ça fait un moment qu'on met en cause un certain universalisme. Donc je dirais pas c'est pas philosophe contre historien, c'est un petit peu plus, et c'est ça qui est difficile, sciences humaines contre, ou différemment de sciences dures, en ce sens que les géologues voudraient bien garder le monopole de dire, si on est dans l'anthropocène ou pas, de dire si
la normativité, au fond, de la manière d'appeler cette période.
Oui, parce qu'ils veulent des traces stratigraphiques et ça,
ils disent preuves.
Des preuves. Et ça, ils disent, mais on n'a pas besoin de gens des sciences humaines pour dire ça. Donc, il y a un petit peu, à la fois, et je crois que c'était quand même le mérite de Chakrabarty de dire, à la suite de Serre et de la Tour, hein, mais de dire, le dualisme classique ne tient plus. Et en même temps, on se rend compte qu'il résiste énormément. Il résiste énormément, et je dirais même dans deux idées. Il résiste dans l'idée que c'est un congrès de géologie qui va décider si oui ou pas. Les géologues sont pas très pressés de faire ça. Et puis, dans la mécompréhension qu'il y a aussi sur l'Anthropocène, qui est de voir ça comme la toute-puissance de l'humanité. Ça y est, on est arrivé, on a le pouvoir sur l'ensemble de la Terre. Alors que, au départ, l'idée, c'était, oui, notre causalité est importante, mais nous sommes complètement impuissants. Nous ne sommes pas capables de revenir en arrière.
Vous dites que les géologues ne sont pas pressés, Catherine Larère. C'est vrai qu'on a le sentiment, Rémy Baud, d'un problème de temporalité, de décalage des temporalités. Alors même à l'intérieur des sciences humaines, où les historiens vont dire, nous, on s'occupe du temps beaucoup plus long que les sociologues. Mais là, si on compare avec les géologues, on a le sentiment que c'est l'un des problèmes conceptuels majeurs, peut-être pour penser l'Anthropocène. Le rapport au temps est extraordinairement différent, en fait, selon les disciplines.
Le problème de la temporalité est d'autant plus saillant que, du côté des sciences humaines, on cherche à faire de l'Anthropocène un nouveau cadre permettant de répondre à la situation alarmante, bien des...
Un levier politique, on peut le dire
comme
ça.
Un levier politique, un cadre théorique également, permettant de penser des nouvelles manières de répondre à la situation actuelle. Donc il y a urgence de ce point de vue-là. Et effectivement, une urgence qui s'associe mal au temps long des géologues, au temps long de cette science qui a besoin de temps pour se prononcer sur l'éventualité d'une nouvelle période de l'histoire de la Terre.
Oui, mais attendez, les géologues l'ont déjà fait, ça. Parce que si vous prenez Pléistocène, Holocène, Anthropocène, dans les échelles de temps, c'est du genre Pléistocène, qui est le moment, un moment de glaciation globalement. Hein. Ça doit être du genre 99%, Holocène 1%, et Anthropocène, qui est encore largement à venir. Donc c'est 0,1%. Donc l'Holocène, c'est quoi? Si on reste dans une vision complètement géologique, c'est une période interglaciaire, comme il y en a eu dans le Pléistocène. Mais dans cette période interglaciaire, l'humanité émerge comme humanité. Elle invente le feu, et puis l'élevage, etc. Enfin, c'est essentiellement l'élevage, c'est le néolithique, hein, donc l'invention de l'élevage, de l'agriculture, etc., le développement des civilisations. Donc, on a déjà, avec l'Holocène, une période, d'ailleurs que les géologues ont mis pas mal de temps à accepter, et une période où, s'il n'y a pas l'histoire humaine, il n'y a pas de raison de séparer l'Holocène. Donc l'Anthropocène répète quelque chose qui s'est déjà passé avec l'Holocène.
L'une des autres critiques que vous relevez, qui est faite souvent à ce concept d'Anthropocène, c'est le caractère, par définition, anthropocentrique de ce concept. Ça revient beaucoup.
C'est un point effectivement aussi très important qui est mis en valeur dans l'ouvrage à travers plusieurs contributions. C'est l'idée que cette appellation d'anthropocène, évidemment, pourrait tendre à se montrer très anthropocentrique. Or, il est tout à fait important de rappeler de ce point de vue-là que si nous interagissons et nous transformons tous les grands cycles biochimiques de la planète, cela a des conséquences aussi sur les êtres vivants non humains et pas simplement sur les sociétés humaines. Et donc, il faut absolument prendre en compte les conséquences de ces changements sur les êtres vivants non humains. Il faut continuer à essayer de se demander comment protéger cette nature impactée par le réchauffement climatique et par les transformations associées à l'Anthropocène. Et donc, il faut se demander notamment comment doivent évoluer les politiques de protection de la nature. Comment peut-on repenser notre rapport au sauvage au sein de cet Anthropocène? Un ensemble de questions qu'il ne faudrait surtout pas rendre invisible derrière cette appellation d'anthropocène.
Ça vous paraît donc une critique à balayer du revers de la main, ce soi-disant anthropocentrisme du mot?
Ah non, je dirais au contraire, à mon avis, c'est une des ambiguïtés. Parce que je crois que quand Crutzen et quelques autres lancent le terme d'anthropocène, c'est pour attirer l'attention en disant, attention, c'est l'ère dangereuse pour l'humanité, mais pour l'ensemble de la Terre. Mais comme on donne le mot Hein, parlez-nous, nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. On se dit, ben, ça y est, c'est le triomphe de l'humanité. Donc ça va produire exactement le contraire de ce qu'on attendait. Alors c'est pour ça, du coup, au lieu de nous rendre humbles, ça nous rend arrogants, nous les humains. Ou nous, certains humains. Et bon, c'est pour ça qu'une philosophe sociologue américaine, Donna Haraway, propose qu'on parle de Toulousaine, du nom latino-américain d'une petite araignée, pour dire bah, c'est une ère de la Terre où beaucoup de vivants...
Cette araignée, au même titre que l'homme, et peut-être même plus, et voilà. Plus rapidement, est menacée.
Voilà. Et elle a pas de moyens techniques de s'en sortir.
Rémi Beau ?
Non, j'ajouterais de ce point de vue-là que... En fait, ça n'est pas une manière d'écarter la critique, mais au contraire, de développer cette critique. C'est-à-dire qu'au fond, la plupart des chercheurs en sciences humaines et sociales, quand ils ont abordé cette notion d'anthropocène, c'était pour la critiquer, pour souligner ce qu'elle disait mal, pour souligner la manière dont elle pouvait rendre invisible un certain nombre de problématiques. Et donc, ce que je voulais souligner de ce point de vue-là, c'était bien l'idée qu'il fallait effectivement développer cette critique d'un concept qui pouvait tendre à une forme d'anthropocentrisme.
Alors ça, c'est le travail des philosophes, de clarifier...
Bah, on essaye
de clarifier les concepts pour les rendre utiles et efficaces.
C'est ce qu'on essaie de faire. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce livre, et en donnant la parole et en montrant la pluralité des positions. On essaie de clarifier les concepts. Il faut se dire aussi que ce qui marche, c'est les concepts pas clairs. Hein, ce qui fait le succès d'un mot...
Oui, ce qui marche au sens de la diffusion, du succès médiatique, du succès politique,
voilà,
etc.
C'est qu'il est ambigu. Donc,
chacun y mettant
ce qu'il a envie de trouver. Et moi, ce que je trouve de bon dans le concept d'anthropocène, c'est qu'il attire l'attention sur la situation de la Terre, sur la situation écologique et environnementale, en disant que ce n'est pas un aspect de notre vie, c'est l'ensemble de notre vie qui en est affecté.
Et puis, ce n'est pas seulement le réchauffement climatique. Ça, c'est
voilà.
Parce que là, il y avait aussi un autre danger, puisque c'était le prisme privilégié, le réchauffement climatique.
Et or là, on prend la biodiversité, l'eau, le carbone, etc. Ça, c'est bien. Mais vu l'ambiguïté qu'il y a justement à mettre l'homme au centre, anthropocène, anthropocentrique, on risque d'oublier qu'on fait ça non pas pour que nous nous glorifions, mais qu'au contraire, nous nous posions des problèmes.
Rémi Beau.
Non, je voulais ajouter que c'est toujours le cas. On accorde toujours beaucoup plus d'articles et de recherches à la question du changement climatique qu'à la question de l'érosion de la biodiversité. Et il faudrait que l'anthropocène, de ce point de vue-là, si l'anthropocène pouvait être un concept opérant, il faudrait qu'il contribue au développement des recherches sur l'érosion de la biodiversité, entre autres.
D'autant que s'agissant de temporalité, les effets... je ne suis pas du tout un spécialiste, mais semble plus rapide et peut-être plus spectaculaire à saisir pour des non-spécialistes que pour le climat, en fait. La disparition de certaines espèces ou de la transformation de certains milieux naturels est extraordinairement rapide.
Il y a une série d'articles qui attirent l'attention. La moitié des mammifères...
Sur les oiseaux récemment.
Les oiseaux, la moitié des mammifères sont menacés. Un article tout récent dans Nature, je crois, sur les coraux. Si les coraux disparaissent, toute la biodiversité qui est... Donc effectivement, ça va plus vite que prévu, pour autant qu'on pouvait prévoir.
Alors la question philosophique derrière beaucoup de ces débats, vous l'avez pointé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne, c'est celle du dualisme, c'est celle héritée, je dirais, d'une tradition philosophique très ancienne. Et là, s'il y a une rupture épistémologique, c'est dans le fait que des philosophies viennent remettre en cause ce dualisme qui structurait tant la pensée. Et cette remise en cause du dualisme philosophique entre l'homme et la nature permet véritablement de nous donner des outils politiques pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Là, il y a un enjeu théorique très fort, Catherine Larrey.
Il y a un enjeu théorique très important, parce que c'est vrai que notre vision, en gros, depuis le XVIIe siècle, s'est construite sur une nette séparation entre ce qui est de l'ordre de l'humain, ce qui est de l'ordre de la nature, ce qui est de l'ordre du sujet, ce qui est de l'ordre de l'objet. Et c'est vrai que c'est remis en cause par la question environnementale et par la globalisation de la question environnementale. Ceci dit, c'est pas facile à prendre en considération, parce que la tendance la plus facile, c'est de dire on n'est plus dans le dualisme, donc on est dans le monisme. C'est-à-dire, ou bien on est dans le tout naturel, ce qui est, on peut comprendre Chakrabarti comme ça, l'humanité c'est...
Elle est dissoute
dans tout est géologique, ou au contraire, on peut comprendre, ben, l'humain touche tout, puisque même les aires géologiques ont un nom humain, donc elles sont fabriquées de façon humaine. Tout le travail qu'on est un certain nombre à essayer de faire, c'est de montrer qu'on ne sort pas du dualisme par le monisme, en disant on est dans où la nature est morte, où tout est naturel, mais on sort par le pluralisme, c'est-à-dire en tenant compte de la pluralité des situations et à la fois se poser comme force géologique et comme humain.
Et là, il y a besoin de la richesse de toutes les descriptions de toutes les sciences humaines et sociales qui sont mises à contribution. D'ailleurs, on le voit dans le livre, les anthropologues, les historiens, les sociologues, pour comprendre cette dimension plurielle dont parle Catherine Larrère.
Oui, j'ajouterais simplement sur cette question du dualisme, c'est que on l'a vu, il y a un certain nombre d'interprétations très différentes de ce que c'est que cet anthropocène, et il y a des interprétations qui sont pleinement dualistes. Celles qui continuent, qui veulent nous présenter l'humanité qui serait désormais à la barre du vaisseau Terre et qu'enfin nous maîtriserions la trajectoire de la planète, on peut dire que c'est dans une continuité absolument parfaite avec, disons, l'objectif de domination de la nature qui aurait été celui de, en caricaturant un peu, celui de la modernité scientifique. Donc l'anthropocène, selon l'interprétation que l'on en donne, ne conduit pas nécessairement à sortir du dualisme. Dans la version de ce qu'on appelle le bon anthropocène, c'est-à-dire dans la version très technophile de l'anthropocène, nous sommes encore en plein dans le dualisme.
Alors la question qui se pose, elle est éminemment politique. Je le rappelais tout à l'heure, ce colloque a été organisé, et ce n'était pas à hasard, à la veille de la COP21 à Paris.
Oui, c'était une idée avec l'idée et le soutien de Philippe Descola, donc professeur au Collège de France, qui voulait montrer que les intellectuels français se mobilisaient sur la question du climat. Je rappelle que bon, ça s'est tenu début novembre, hein, et la COP21 était fin novembre, début décembre. Je rappelle qu'à ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que ce serait un échec, la COP21, qu'on n'arriverait pas à un accord. Et donc, c'était une volonté de s'engager. Et puis, avec Philippe Descola, il y avait aussi montré que dans la pluralité, il y avait la pluralité des cultures. Et que donc, on n'allait pas faire un événement purement centré sur l'Occident. Donc, il y avait cet élément
pluralité
important.
Des cultures, pluralité des disciplines.
Voilà.
Aussi, dialogue entre les disciplines académiques.
Philosophes, anthropologues, historiens. Il y avait aussi des géologues et des sciences dures qui étaient présentes.
Alors, ma question, c'était au fond, comment s'articule cet état des savoirs dont on l'a vu, il y a des clivages qui sont forts dans ces milieux sur ce concept d'anthropocène avec la dimension politique et les clivages politiques. Est-ce que les travaux menés lors de la COP21 et plus généralement par tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de mettre en œuvre ou de concevoir des politiques publiques à toutes les échelles possibles, du plus local au plus global, comment ces mises en œuvre de politiques publiques sont informées par les débats scientifiques qui vous ont préoccupé? Est-ce qu'on peut en avoir une idée, Rémy Beau?
Je dirais que du point de vue du rapport entre, disons, ce que l'anthropocène fait à la politique ou la manière dont la politique peut s'emparer de l'anthropocène, peut-être que la défiance croissante qu'un certain nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales expriment à l'égard du concept, alors même, comme le soulignait Catherine Larrère, que ce concept aurait pu les séduire par la façon dont il insistait sur la gravité de la situation, eh bien c'est le fait que la version, disons, technophile, la version qui souligne le fait que un certain nombre de solutions technologiques, les puits de carbone, la géo-ingénierie, tout ça, permettrait au fond de répondre à la crise sans transformer profondément nos modes de consommation et nos modes de production, tend à devenir dominante dans l'arène politique. Et de ce point de vue-là, cela déclenche un certain nombre de critiques parmi les chercheurs qui voulaient se servir de ce concept pour mener la critique des modes de production et des modes de consommation actuels.
Catherine Larrère.
Je crois que derrière la question de l'humanité, il y a la question de la responsabilité. On peut reprocher deux choses au récit scientifique de l'anthropocène. D'une part, de mettre en avant les scientifiques comme ceux qui comprennent, qui sont en dehors de la mêlée, qui voient d'en haut ce qui va mal. Et d'autre part, d'attribuer à l'humanité de façon indifférenciée la responsabilité de ce qui se passe. Or, je pense que ces deux questions politiques importantes dans la gestion globale, le traitement global de la question environnementale, il y a premièrement la question du rôle des scientifiques. Ça, c'est la nouveauté des questions environnementales, où les scientifiques ont une importance qui n'ont pas dans d'autres domaines, et où on peut dire il faut des scientifiques pour montrer ce qui est invisible. Le changement climatique, on commence à le voir de plus en plus, mais il y a quand même une invisibilité, et ça fait appel à l'expertise scientifique. Donc il y a la place de l'expertise scientifique dans la politique, et on voit, je dirais, quelqu'un comme Trump finalement donne raison aux scientifiques, parce qu'il les remet tellement stupidement en question qu'on a envie de dire mais c'est eux les bons, faut leur donner le pouvoir, c'est pas évident. Et l'autre aspect,
il est utile, comme dit Bruno Latour dans Où atterrir, son dernier livre,
il peut servir à montrer que d'abord la question de l'anthropocène, du changement climatique, des dégradations environnementales est une question politique, elle est présente partout. Il y a toujours une réaction. Et puis, parce que cette façon de dire « bon non, c'est le changement climatique, c'est une invention, c'est un complot », bon, c'est tellement faux que je vous dis. Mais du coup, ça donne peut-être plus de prestige et d'autorité aux scientifiques qu'il le faudrait. L'autre question, et qui a été un des enjeux de la COP21, qui a pu expliquer qu'on est allé à chercher l'augmentation de température la plus faible, et ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire la question d'une part de la responsabilité historique, qui est responsable, et d'autre part, qui prend en charge. Et ça, c'est la question de justice à la fois mondiale et intérieure à chaque pays, qui est liée aux questions environnementales et aux inégalités dont parlait Rémi.
Oui, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire comment, au fond, la controverse née de l'article de Chakrabarty aujourd'hui se traduit dans des rapports de force politique entre le Nord et le Sud, pour le dire avec un vocabulaire un peu ancien, un peu daté, Rémi Beau.
Oui, alors ça c'est une problématique effectivement de justice environnementale et de justice climatique dans ce rapport. Alors, bon, schématiquement, ce rapport Nord-Sud entre les pays du Sud, qui dirait au fond, c'est à vous, pays du Nord, qui êtes responsable historiquement de cette crise de payer, et les pays du Nord soulignant le fait que ça aurait été une transformation dont ils n'avaient pas conscience, et donc ils ne seraient pas responsables historiquement, responsables causalement, mais pas historiquement. Je dirais qu'on a avancé par rapport à ce débat-là, que parler du Sud est trop schématique, parce que il y a maintenant les Suds et des blocs assez hétérogènes, et notamment simplement par le fait que des pays comme la Chine,
c'est le plus gros
est devenu le
producteur de gaz à effet de serre.
Voilà, et par conséquent, la Chine, qui voulait être auparavant en quelque sorte le leader de ce bloc des pays du Sud, on voit bien que les intérêts de la Chine...
Quoi, les coûts communs entre la Chine et un pays africain ou Tuvalu.
Et voilà, on voit que les intérêts ne sont pas nécessairement communs, et donc ces blocs se fissurent. Et comme l'ont bien montré les travaux de Stéphane Aïkout et Amit Dahan sur ce régime climatique, il y a des reconfigurations et je pense qu'il faut dépasser cette opposition Nord-Sud aujourd'hui.
Alors, rendre visible, c'est l'un des enjeux de cette question de l'anthropocène. C'est l'un des enjeux aussi pour lequel les artistes peuvent jouer un rôle important. On va le voir dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, on écoute un extrait du nouvel album du rappeur de Chicago, Saba, Buzzy Sirens. I'm so alone, but all of my friends, got some shit to do. All them got plans, I call them on bad and text, and they never cross me like bad pedestrians. I've been this aqua since adolescence. I don't know how long I had depression. Never know peer pressure. I'm trying to get my little pack of offense. Some girl I call my BFF. That ain't no secret kept. I fucked and told my cousin I'm broke. I wasn't buzzing. I tried to hit a few years. She wasn't budging. I'm bogus. Left my girl for some shorty. Shorty deserving all this lonely. You sad? Tell me how are you sad? You got all of these friends. You got all of these fans. I ain't trust nobody new since 2012. I ain't let nobody in. Jesus got killed for our sins. Walter got killed for a coat. I'm trying to cope, but it's a part of me gone. In the power of my alone. I'm having a busy day. I'll hit you back right away. I've seen that skies were gray. I hope to God you'll stay. I'm having a busy day. I'll hit you back right away. I've seen that skies were gray. I don't do what I just said.
world. She leave me for work and leave me for school. She finally home, I leave her for two. FaceTime me new to the year. All of this new to me, yeah. All of the infidelity when I was 17. Been catching up and still feel like she catch me cheating. Niggas asking me how tour was, knowing I've been home like 2 months. And I seen your ass like 2 times. Say the small talk like 2 dime. No time, social interaction. Had female friends I found attractive. I tried to fuck, but I am no savage. Now we don't speak, we just want pairs of my past could talk. They probably reply to the missed calls after all. Cause the friendships that I can't recall done turn my heart into camouflage. While the guys that used to play basketball, we're doing shit that I can't endorse now. With the Lord now, when it pours down, with the long dance, still alone now.
I'll hit you back right away. I sing that skies were gray. I hope to God you'll say I'm having a busy day. I'll hit you back right away. I sing that skies were gray.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Penser l'Anthropocène, c'est le titre de l'ouvrage sous la direction de Rémi Beau et Catherine Larère dont nous parlons à la suite dans les idées. Aujourd'hui, et dans cette deuxième partie, on va tenter de penser l'Anthropocène en ajoutant une dimension absente du livre, si ce n'est peut-être sur la couverture, la dimension artistique, puisque l'Anthropocène intéresse les artistes depuis maintenant assez longtemps, et qu'à Montpellier se tient Crash Test, la révolution moléculaire, une exposition dont vous êtes le commissaire, Nicolas Bourriaud.
Bonjour.
Bonjour. Oui. Une exposition dans laquelle cette question de l'Anthropocène vous intéresse au premier chef. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment déjà que vous suivez ce qui, dans le monde de l'art contemporain, relève de ces débats, de ces tentatives de comprendre le moment où en est la planète et l'humanité.
La première exposition que j'ai réalisée sur le sujet, c'était à la Biennale de Taipei, donc à Taïwan, qui s'appelait The Great Acceleration, c'était en 2014. Et on peut dire que Crash Test, c'est un petit peu la conclusion de ce cycle d'exposition qui a été ponctué par la publication d'un essai qui s'appelle Lexform. Donc c'est pour moi une sorte de cycle de pensée. La différence majeure, c'est que The Great Acceleration à Taipei était une exposition très générale, en fait, sur la question de l'Anthropocène, alors que Crash Test, c'est une exposition beaucoup plus générationnelle. C'est-à-dire que j'essaie de montrer la première génération d'artistes qui est véritablement impactée par l'Anthropocène, donc des gens qui sont nés dans les années 80 pour l'essentiel. Et je pense que la vraie différence, c'est que l'Anthropocène dans le monde de l'art et pour les artistes, c'est avant tout le nom d'une prise de conscience. La prise de conscience de, avant tout d'ailleurs, d'une sorte de fin de la division très occidentale entre la nature et la culture, dont vous parliez tout à l'heure.
Alors oui, c'est pas anodin le fait que cette première exposition dont vous parliez s'était tenue à Taïwan. On sait que l'art contemporain est un domaine globalisé, extraordinairement globalisé, dans lequel les asymétries que l'on peut connaître dans d'autres domaines ne se retrouvent pas, où il y a davantage peut-être d'échanges et où du coup des visions du monde assez différentes de celles auxquelles nous sommes habitués en Occident peuvent prévaloir.
C'était ce dialogue justement et cette sorte de dichotomie, en fait, de divergence de point de vue qui m'intéressait dans l'exposition à Taipei. Parce que vous avez raison de le souligner, on ne pourrait pas comprendre l'effet anthropocène aujourd'hui si on ne le lie pas à la globalisation économique. Il y a à la fois cette prise de conscience, en fait, qui est de l'ordre de l'écologie politique ou de la critique des modes de vie occidentaux et du capitalisme, et de l'autre côté, cette conscience très globalisée qui favorise, d'une certaine manière, des modes de pensée artistiques dans les arts visuels, qui explorent cette division, cette fin de la division nature-culture. Alors ça donne quoi, en fait, dans l'exposition? Ça donne des pratiques, en fait, qui sont très chorales. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une appréhension du vivant dans sa totalité. On n'est plus dans l'idée d'un artiste qui essaie d'exprimer son petit moi, mais qui essaye de se mettre en dialogue, en fait, avec d'autres règnes, et dans le vivant, dans sa totalité, en fait. Il y a une sorte de porosité, si vous voulez, ou une sorte d'effacement des frontières entre l'animal, le végétal, le mécanique même. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière très claire dans l'esthétique contemporaine.
Et ça
caractérise cette génération sur laquelle vous vous êtes focalisé pour Crash Test, à la différence de la précédente exposition. C'est en cela que cette génération serait, cette première génération, marquée par la prise de conscience de ce moment de la planète, différente des générations antérieures ?
Oui, je pense que c'est ça le principal angle. Le sous-titre de l'exposition, c'est la révolution moléculaire, qui est bien entendu un clin d'œil au texte assez visionnaire de Félix Guattari en 77. La révolution moléculaire, c'est quoi ? C'est le fait que les artistes d'aujourd'hui portent une sorte de regard molécularisé sur le monde. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre les fondements physiques, chimiques, matériels de la réalité sociale et de la réalité tout court. On n'est plus à se poser la question de la représentation du réel d'un point de vue sociologique ou simplement politique, mais on va essayer de décrire la réalité dans ce cas-là de moléculaire, parce que finalement c'est la plus grande critique du système capitaliste qu'on puisse porter, parce que le capitalisme est, contrairement à ce qu'on croit, totalement antimatérialiste. Il n'y a pas de matérialisme, en fait, mais au contraire, il y a un idéalisme qui consiste, en fait, à tout transformer, finalement, en produits financiers. C'est-à-dire en une sorte d'équivalent général abstrait, comme disait Marx, qui est purement idéal, en fait. Le matérialisme, c'est une arme, aujourd'hui, contre cette espèce de capitalisme sans frottement, comme disait Bill Gates. Hein. Le capitalisme cherche du frottement zéro. Et c'est ce que, précisément, les artistes visuels d'aujourd'hui vont complètement à l'encontre et s'attardent en fait à la matérialité du monde.
Catherine Larère ?
Oui, il y a un certain nombre d'écologues et de, je pense à quelqu'un comme Hornborg qui insiste, et de, disons, de gens qui font de l'économie écologique, qui insistent sur la nécessité de rematérialiser le monde et prennent effectivement, comme vous le dites, la monnaie comme l'exemple même d'une dématérialisation du monde qui n'est plus tenable, parce que il faut reprendre conscience de l'espace, de l'endroit où ça se passe, et que les distances sont pas, ne peuvent pas être abolies comme ça. On n'est pas dans l'immatériel, on est dans la matérialité.
Oui, il y a une œuvre qui est de l'exposition qui est assez emblématique de cette manière de procéder, qui est celle d'une jeune artiste américaine qui s'appelle Agnieszka Kurant, qui a en fait, et il faut penser à la délocalisation quand on voit l'œuvre, au phénomène de délocalisation, elle a fourni en fait à des colonies de termites des matériaux colorés, et elle a fait travailler des millions de termites, et elle expose en tant que sculpture les architectures fabriquées par les termites avec les matériaux qu'elle leur a fournis, et le résultat est absolument extraordinaire.
Vous parlez là d'une artiste américaine. Est-ce que vous avez observé dans cet univers de l'art contemporain mondial des différences, Nicolas Bourriaud, entre les artistes du Nord et les artistes du Sud, pour reprendre la distinction que nous avons utilisée tout à l'heure, à la fois pour dire aussi qu'elle tenait de moins en moins ?
J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence en fait géographique aujourd'hui. D'une part parce que ce type d'interrogation ne peut pas être séparé d'une conscience planétaire des choses, et que les réalités les plus locales sont abordées d'un point de vue qui demeure malgré tout global. Cette manière de relocaliser les choses, d'examiner le monde d'un point de vue très matériel, n'implique pas en fait une différence idéologique. Je dirais que l'Anthropocène, de ce point de vue-là, fonctionne comme une sorte de prise de conscience universelle. C'est un universel, finalement, en tant que prise de conscience, j'insiste là-dessus. Dans l'art, il n'est pas forcément question, en fait, de la véracité ou pas, ou de la vérification de l'hypothèse scientifique, mais je crois que c'est, quoi qu'il arrive, ça restera le nom d'une prise de conscience.
Et comment ces artistes sont informés de la situation, et informés notamment par les travaux scientifiques, ceux des sciences dures, mais aussi ceux dont nous parlions tout à l'heure, des sciences humaines? Est-ce que vous avez, en rencontrant ces artistes, trouvé des lecteurs?
Ah ben, tout à fait. Il y a d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition Crash Test, en fait, on a par exemple un texte de Noam Segal en fait sur la poussière intelligente et la manière dont cette idée de la pulvérisation de la puissance technologique dans le monde de l'invisible quasiment va modifier aussi notre manière de voir le monde. Et il y a un autre texte de Stéphanie Hessler sur la manière dont les artistes s'emparent justement des informations scientifiques pour étayer leur regard sur le monde. Je pense par exemple à une vidéo qui est dans l'exposition d'un artiste brésilien qui s'appelle Thiago Rocha Pita, qui montre, c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, à l'aube, ce qu'on appelle des stromatolites, qui sont prises à Hamelin Pool en Australie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces espèces d'objets à mi-chemin justement entre le minéral et le végétal, les stromatolites, sont les plus anciennes formes de vie organisées qu'on connaisse. Donc il y a une information qui passe, une information scientifique aussi, et une curiosité, je dirais, de la part des artistes, qui passe dans les travaux.
Catherine Arrère.
Oui, la question que je me pose, moi, il y a beaucoup d'art qui est lié aux questions écologiques, environnementales, a un peu une vocation militante. Et vous parliez l'idée que la performance artistique peut modifier la situation. Alors, vous parliez de prise de conscience, ce qui peut se discuter, jusqu'où ça va, qu'est-ce que c'est censé produire ce genre de mise en évidence.
Prise de conscience, j'ajoute, prise de conscience du spectateur ou prise de conscience de l'artiste.
Les deux.
Oui, bien sûr. Vous savez, le temps de l'artiste, il n'est pas moins long que celui du géologue. Il ne s'agit pas, pour moi, je n'ai pas essayé de montrer des artistes militants, justement, ce n'est pas la question. Par ailleurs, ça peut être extraordinairement intéressant, et en tout cas utile, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui passe de cette prise de conscience planétaire dans les formes. Et quand je dis les formes, c'est un niveau spécifique, justement, d'intelligibilité du monde, qui est pour moi d'une même valeur que l'intelligibilité scientifique. Sachez que c'est difficile à admettre, selon qu'on se tienne d'un côté ou de l'autre de la barrière.
Je crois que si on prend l'idée que l'anthropocène est très largement encore à venir, c'est de l'ordre du récit, de l'imaginaire, et je pense qu'on y arrive beaucoup plus à le rendre pensable et visible en passant par l'imaginaire que par la simple démonstration scientifique.
Nous sommes tout à fait d'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des réponses, d'ailleurs, ce que j'appelle une prise de conscience globale. Un autre artiste, Johannes Büttner, qui est allemand, travaille sur la mise en œuvre dans une série de sculptures de modes de fabrication d'énergie alternatifs, dont certains parfois sont très fantaisistes, d'ailleurs, mais peu importe, il y a une espèce de poétique de la production de l'énergie qui se donne à voir dans ces sculptures. Donc il n'y a pas une réponse univoque. On est vraiment, à partir de cette prise de conscience unitaire, dans une multitude de réponses et une multitude de modes d'examen de la matière et de la manière dont la matière peut générer justement des formes.
Multitude qu'on retrouve dans l'exposition. On va devoir en rester là. Nicolas Bourriaud, merci d'avoir été avec nous par téléphone depuis Montpellier pour parler de l'exposition que vous avez conçue et que vous montrez au Centre d'art La Panacée que vous dirigez par ailleurs. Crash Test, la révolution moléculaire. Les auditeurs ont jusqu'au 6 mai pour voir cette exposition. Et je rappelle le titre du livre dont nous parlions à la suite dans les idées aujourd'hui, Penser l'Anthropocène, sous la direction de Rémi Beau et Catherine Larère. Il paraît aux presses de Sciences Po. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, ainsi que le lien vers la page de La Panacée et l'exposition à Montpellier, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmont, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique Claire Levasseur, Nicolas Echen, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.